Après la sélection musicale top niveau de Bruno Dubois, on va parler d'un sujet beaucoup plus lourd, l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Nous sommes en compagnie de Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme. Claude Moniquet, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, on va y revenir inéluctablement. Est-ce que la thèse du loup solitaire, dans le cas de l'assassin de Samuel Paty, tient la route ou pas ?
Non. D'abord, loup solitaire, c'est une expression de journaliste, avec tout le respect que j'ai pour votre belle profession. Mais un loup solitaire, ça n'existe pas. Je ne me rappelle pas d'avoir jamais, sur des centaines d'attentats que j'ai étudiés dans différentes mouvances partout dans le monde, et en particulier en France, évidemment, je ne me rappelle pas d'avoir jamais vu un seul loup solitaire. Ce que nous avons, c'est des gens qui, au moment du passage à l'action, du passage à l'acte, sont seuls. Comme Mohamed Merah, comme apparemment ce jeune Tchétchène, comme le Pakistanais qui a attaqué Charlie Hebdo il y a quelques
jours.
Semaines. Mais avant cela, il y a eu un phénomène de radicalisation. Il y a eu un phénomène parfois de recrutement, d'adhésion à un mouvement. On peut lui avoir fourni des renseignements, des armes. Donc il n'était pas seul dans la conception et la gestation de l'acte. Et là, c'est d'autant plus clair que pour ce garçon n'était pas scolarisé dans l'école qui a été visée. Il ne connaissait pas personnellement le professeur. Donc pour pouvoir connaître l'horaire de sortie du professeur, pour pouvoir l'identifier, il a fatalement, à un moment ou l'autre, dû être renseigné par quelqu'un. Donc non, ça n'est pas un loup solitaire.
Manifestement, il a été renseigné par les réseaux sociaux, puisqu'on connaît l'histoire de la vidéo de ce parent d'élève, qui est relayée notamment par la grande mosquée de Pantin. Et puis il y a des appels au meurtre qui sont écrits, et y compris l'adresse, le nom, le prénom, tous les éléments permettant de commettre cet attentat contre Samuel Paty.
Oui, mais tout ça ne vous donne pas son horaire de sortie, une veille de vacances, tout ça ne vous donne pas, à ma connaissance en tout cas. Alors on pouvait trouver effectivement par les réseaux sociaux, on pouvait trouver des photos datant de quelques années. Enfin, c'était quand même relativement aléatoire, donc on verra bien. Mais du reste, pour le moment, on a 10 personnes en garde à vue, dont d'ailleurs une personne qui avait été essentielle, qui était l'homme, le père d'une élève qui avait instrumentalisé cette affaire et qui avait déposé une plainte contre Samuel Paty.
Et qui ne s'est pas rendu au commissariat avec sa fille le jour de la convocation ?
Qui ne s'est pas rendu avec le commissariat avec sa fille, mais qui était accompagné à un moment donné dans une visite à l'école d'un militant salafiste extrêmement connu et actif sur la région parisienne, qui d'ailleurs est en garde à vue depuis hier, et qui par ailleurs, bon mais ça on n'est pas responsable de sa famille, mais par ailleurs curieusement a une demi-sœur qui est sous mandat d'arrêt international parce qu'elle a rejoint l'État islamique en Syrie.
Absolument. Alors est-ce que, quand vous voyez par exemple la grande mosquée de Pantin qui a retiré sa publication après l'attentat, avec des commentaires qui étaient de véritables appels au meurtre, est-ce que, pour limiter le risque terroriste en France, on ferait pas bien de surveiller un peu plus les lieux de culte ?
Alors, les lieux de culte, c'est évidemment toujours un sujet compliqué. D'abord, soyons clairs, les lieux de culte les plus radicaux font l'objet de surveillance du renseignement. Ne soyons pas angéliques. Et c'est normal. Maintenant, effectivement, le problème, c'est qu'on assiste en France un peu partout, et c'est un phénomène auquel je me suis intéressé ces dernières années, à une pénétration des lieux de culte, y compris traditionnels, y compris très respectables, par une frange salafiste qui radicalise les lieux, qui tente de prendre en main la direction de la prière, qui tente de prendre en main les prêches, qui tente de prendre en main les fidèles ou de radicaliser les fidèles. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on peut avoir des lieux de culte dans lesquels 90% des gens sont des gens tout à fait honnêtes, respectables, qui vont prier, tant mieux pour eux, et puis 10%, une frange de 10% qui est activiste, qui est salafiste et qui essaie de pourrir les choses et de les radicaliser. Comment réagir à ce niveau-là ? C'est compliqué. Nous sommes dans un état laïque, mais un état évidemment qui respecte par ailleurs l'exercice des cultes. On est sur un sujet que tout le monde comprend être très sensible et qui par ailleurs peut être exploité si les choses sont mal faites par les extrémistes qui diront « mais regardez, c'est une guerre à l'islam, Macron, le chef des croisés, etc., nous persécute ». Donc oui, je pense effectivement qu'il faudrait mieux surveiller les lieux de culte, mais c'est extrêmement sensible.
Mais alors, il est quand même passé au travers des mailles du filet parce qu'il n'était même pas fiché S.
Alors, il n'était pas fiché, comme d'ailleurs le jeune Pakistanais dit il y a 15 jours à Charlie Hebdo. Mais on est en face d'un garçon qui est arrivé de Russie relativement récemment, qui est titulaire d'un permis de séjour de 10 ans, comme le reste de sa famille.
Qu'il avait eu début 2020.
Début 2020, en mars 2020, qui a 18 ans, donc qui n'a pas encore eu, je dirais, le temps de se faire remarquer en France par un extrémisme. Par ailleurs, est-ce qu'on est en face d'un individu radicalisé au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire quelqu'un qui a suivi un parcours de radicalisation à l'intérieur d'une mouvance politico-religieuse ? Ou est-ce qu'on est simplement en face de quelqu'un qui baigne dans un milieu culturel, un jus culturel qui fait que pour lui, sans même être à ses yeux radicalisé, l'insulte faite au prophète mérite la punition, mérite la mort, ce qui est quand même relativement présent dans certaines parties du monde musulman, entre autres chez les Tchétchènes dans le Caucase, comme mode de pensée. Ça, c'est de l'avenir qu'il dira. Mais on aurait très bien pu ne jamais remarquer ce garçon, parce que simplement, il ne fréquentait peut-être pas de milieu radicalisé. Maintenant, on est au début de l'enquête, qui a commencé il y a 48 heures, donc on verra ce que disent les choses. Mais il y a cet aspect culturel certainement à prendre en compte.
Dernière question pour une réponse en 30 secondes. Est-ce que ça interroge pas sur les gens qu'on accueille en France, que sa famille avait été refusée pour l'asile politique en Pologne ?
Oui, il est clair que nous avons la France s'honore d'accueillir des réfugiés. La France est un pays qui défend les droits de l'homme et qui accueille les réfugiés. Maintenant, effectivement, peut-être faudrait-il être un peu plus regardant et sélectif et mettre des conditions, en tout cas sur les valeurs. Quand on se réclame des droits de l'homme, on ne peut pas en même temps, quand on se réclame de la protection des droits de l'homme, on ne peut pas en même temps véhiculer des valeurs qui sont des valeurs archaïques, antidémocratiques et qui ne sont pas laïques.
Merci beaucoup Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme. Dans la prochaine demi-heure, on va retrouver Sandrine De Bruyne pour nous parler de décoration, bien évidemment, version déco XXL ce matin. Ensuite, on aura Bruno Pomard, ancien flic d'élite, fondateur du RAID. On parlera également de comment ça se passe pour des flics quand ils tombent sur un terroriste nez à nez. Et en tant qu'ancien fondateur du RAID et de flic dans les cités, il sait de quoi il parle. Et ensuite, on aura le journal des sports de Gaspard de Vaubicourt. Restez bien avec nous sur Sud Radio.